pleine gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes fêtent à saccager les pions. J'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Gaffe les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. Pour l'armée, si vous arrêtez pas, tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Bonjour à toutes et tous, on est sur l'envolée, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Et donc c'est une émission un peu particulière, déjà parce que c'est une émission qui est enregistrée. Et on va parler principalement d'une histoire qui commence à dater, ça fait à peu près 6 ans. On va parler de la mort d'Adil Teshi. Qui est en fait une histoire qui montre vraiment comment le manque de soins ça peut être entretenu et comment la paix elle peut être responsable de la mort de quelqu'un par le manque de soins quoi. Et donc là pour ce soir il y a Sylvia qui est avec moi.
Après c'est même plus un manque de soins, c'est du même acabit que Gordana qui est morte à Fleury-Mérogis, c'est un refus de soigner, c'est pire que ça. C'est même pas un manque de soins. Un manque de soins, c'est parce qu'il n'y a pas de moyens, tu comprends?
Ouais, là, je suis d'accord.
Il y a des moyens, mais ils veulent pas le soigner. Donc,
c'est volontaire, quoi. Ouais, c'est à la limite du meurtre, hein. Enfin.
Complètement, ouais, mais complètement. Et puis, encore une fois, il y a eu le procès là, qui vient de passer. Et encore une fois, il manque des gens dans ce procès. Il manque des surveillants, il manque une direction, il manque des témoins, il manque tellement de choses qui fait que ça demande des petites peines et des bricoles pour un docteur qui se défend en jetant la faute sur l'administration pénitentiaire.
Ouais. Et en fait, donc là, nous on va introduire un petit peu, on va lire le texte, enfin un texte qui a écrit la compagne d'Adil Teshi. Et après, on va passer un long enregistrement qu'on avait fait en septembre 2017 avec elle, où on revient ensemble en fait en détail sur tout ce qui s'est passé avant Et en fait, ce que t'expliques, c'est-à-dire que c'est pas, t'as raison, en fait, c'est pas juste un manque de soins, c'est pas parce qu'il n'y avait pas assez de lits à l'hôpital, quoi. C'est vraiment comment tu laisses mourir quelqu'un à l'intérieur, alors que tout le monde voit qu'en fait son état de santé se dégrade, quoi. Et comment les matons, tout d'un coup, ils s'auto-improvisent médecin pour décréter que la personne, elle va bien et qu'elle simule, quoi. Jusqu'à ce que, quand il est dans le parloir, en fait, en train de faire une hémorragie interne, au sol, et bah, eux, ils vont lui mettre des coups de pied, pour essayer de le relever, quoi. Donc voilà, en fait, ça montre bien genre toute la violence des matons à l'intérieur et comment ils utilisent un peu ce truc-là de la médecine, bah, pour voilà, pour tuer autrement, quoi. Et
Et
donc
en disant, en lui mettant des coups de pied à la vue de sa femme et en expliquant que ce jeune homme simule. Et donc
exactement.
effectivement, ils se sont improvisés, petit docteur.
Alors, avant de commencer là-dessus, on va juste rappeler que pour nous appeler pendant les vacances, donc on va pas donner le numéro du direct parce que les trois prochaines émissions, elles sont enregistrées, mais on a un portable pour nous appeler au quotidien, c'est le 07 53 10 31 95 et il faut pas hésiter à nous écrire au 1 rue de la Solidarité 75019 Paris, l'envolée-FPP. Il y a le nouveau journal qui arrive et l'abonnement est gratuit pour les prisonniers et les prisonnières, donc faut pas hésiter à nous écrire pour s'abonner et faire tourner le journal à l'intérieur, quoi. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence par lire le texte qui a été écrit par sa compagne et qu'après, on en discute un petit peu et comme ça, après, on lance l'enregistrement.
Ouais, ça marche.
Il aura fallu attendre presque 6 ans pour arriver au procès de ce médecin. Ça a été une journée compliquée, un mélange de sentiments, de colère, de haine et de tristesse. De la colère parce que je me suis pris en pleine tête le mépris et l'indifférence de ce médecin, entre guillemets. Il n'a cessé de se défendre en insistant qu'Adil était un DPS et qu'il fallait le GIPN pour l'escorte. Mais peu importe le poids de ses erreurs passées, quand Adil le suppliait de l'aider, de le soigner, en bref, de faire son métier, il ne pesait plus que 53 kilos pour 1,80 m. Il était à bout de force et sûrement pas dangereux. La procureure a insisté sur le fait que ce drame était dû à l'ego démesuré de ce monstre. Précision. Le mardi avant son décès, Adil a fait un malaise, en discutant avec un surveillant. Le régulateur du SAMU a suspecté ce qui sera la cause du décès d'Adil 3 jours plus tard. Malheureusement, le médecin de Sequedin a pris la communication et a réaffirmé au médecin régulateur qu'Adil était un simulateur. Haine, parce qu'au travers des différents témoignages, j'ai pu une nouvelle fois imaginer la douleur, le désespoir qu'Adil a dû subir des jours et des semaines entières. J'aurais voulu lui crier ma haine, lui dire tout ce que j'ai perdu. Ma vie s'est arrêtée ce 12 février. Nos projets envolés. Il me prive d'un homme aimant, protecteur, respectueux. Voilà ce qu'était Adil pour moi. De la tristesse, parce que rien ne pansera cette plaie au cœur que j'ai depuis le 12 février 2016. Je suis triste, écœuré, parce que oui, il aurait pu être sauvé. Et l'ensemble des avocats ont souligné ma présence sans faille à chaque parloir. Je n'en tire aucune fierté. À l'ombre du pénitencier, Adil était mon soleil, et nos projets nous faisaient croire en des jours meilleurs. Même s'il avait pris perpète, je serais resté. C'était comme ça, on était unis. Il n'a pas pris perpète, il a été condamné à mort. Chaque soir, quand je ferme les yeux, je revois Adil, allongé sans vie sur le sol de cette cellule. Il a fermé les yeux à tout jamais dans cet endroit. J'aurais voulu lui dire plein de choses, mais quand je suis arrivé à la barre, j'ai été incapable de dire quoi que ce soit. Je n'ai fait que pleurer. 12 mois de prison avec sursis ont été requis contre lui. 12 mois. 12 mois pour la vie d'un homme. Il n'a pas fait exprès, mais il n'a rien fait pour l'éviter. Ma victoire sera d'avoir réussi à l'amener devant ce tribunal. Lors de ma dernière visite à la morgue, j'ai promis à Adil d'aller jusqu'au bout, de lui rendre justice. Et même si j'ai fait cette promesse à un corps froid, immobile, je me devais de la tenir. Le délibéré sera le 9 février 2022. Eh ben, déjà, on voit un peu le temps hein, qu'ils mettent à juger ce genre d'affaires, quoi. Là, on passe pas par des compas, il n'y a pas. Enfin voilà, ils mettent le temps aussi en fait. Enfin, c'est une espèce d'impunité quoi qui est entretenue. 2016, c'est il y a longtemps. Ça rappelle que là, les dernières émissions, on a beaucoup parlé de la mort de Sambali à Saint-Martin-de-Ré. C'était août 2016. Et pareil, le procès vient de se tenir. Donc ça veut dire que c'est des années de galère pour la famille en fait. Des années de
Mais
galère.
eux, ils ont un petit peu un plus, c'est que nous, quand on a une histoire, juste un non-assistance à personne en danger, par exemple, parce que ça aurait pu être ça, on est en prison, quoi. On a des 5 ans, on les attend en taule. Eux, ils passent en libre et ils continuent d'exercer pendant le temps de leur. Pendant l'attente du jugement. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à laisser des gens exercer la médecine dans la plus totale à différence des faits qui lui sont reprochés pour plus tard, quoi. C'est ça qui est... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ah bah ouais, non mais clairement, en vrai c'est hyper choquant. C'est-à-dire que le médecin, en fait quand on dit que les médecins, ils sont, même s'ils sont plus payés aujourd'hui par l'administration pénitentiaire, ils sont collabos des matons, c'est exact. En fait cette histoire elle montre exactement ça quoi. C'est un médecin qui pense systématiquement que son patient il ment. Déjà bon, faut qu'il arrête son métier quoi. Mais en fait c'est un maton, c'est pas un médecin. Tu vois, et ça rappelle aussi qu'en fait c'est scandaleux que les ambulanciers et les urgences elles puissent pas intervenir d'elles-mêmes en prison. Et qu'il faille qu'à chaque fois que ce soit le médical ou l'AP qui valide, quoi. Que du coup, ça permet un contrôle total sur ce qui se passe, y compris quand il y a des violences des matons, y compris quand ils sont en train de pousser quelqu'un à bout. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen, en fait, de sortir de ça sans que l'administration pénitentiaire l'accepte, quoi. Et bah voilà, 12 mois de prison avec sursis, bah c'est ridicule. Nous, on souhaite de la prison à personne, hein. C'est pas la question de foutre les gens en tôle. C'est juste qu'en fait, cette personne, elle devrait être interdite d'exercice. Que ce procès il aurait dû être là aussi pour la famille et pour expliquer, enfin pour qu'elle puisse entendre la vérité. Et tu peux pas entendre la vérité s'il y a que le médecin qui est convoqué, parce qu'en fait on va l'entendre dans l'enregistrement après. Hein. Mais c'est les matons qui le ramènent en parloir après qu'elle a insisté, qui avait essayé de faire croire à Adil que c'était un parloir fantôme. C'est les matons qui lui mettent des coups alors qu'il est à terre en lui disant que c'est un.
Il tombe dans les pommes dans le parloir devant elle. Et en
C'est ça.
fait, il la traîne, il le traîne après qu'elle ait appuyé sur la sonnette en lui mettant des coups de pied dans la tête.
C'est
Voilà,
ça.
exactement.
Et en fait,
En
il.
disant, tu simules une évasion pour pouvoir t'évader.
Exactement. Et en fait, tu vois, c'est exactement le même discours que le médecin, quoi. En fait, c'est quand on dit qu'ils sont tous pareils. Hein. C'est-à-dire que lui, il a un diplôme de médecin, mais il n'a pas l'air très compétent là-dedans, quoi. Et eux, par contre, ils s'improvisent médecin pour voir quand est-ce que quelqu'un simule, quoi. Alors que, en fait, voilà, pour devenir maton, il faut faire un QCM. Et tu vois, bon, c'est pas une question de, c'est des débiles ou quoi. Enfin, on s'en fout, mais c'est juste qu'ils ont aucune compétence médicale. Et à la limite, ils ont passé le truc de premier secours pendant leur année là, à l'ENAP, là, à l'école des matons. Mais c'est tout, quoi. En fait, ils ont aucune capacité à savoir si quelqu'un simule ou pas. Et d'ailleurs, c'est pas leur taf et on leur demande pas, en fait, leur avis. Donc,
Et là où c'est d'autant plus grave, c'est que quand on est au parloir, il y a une petite vitre qui sert à ce que les matons regardent si il se passe rien ou si on s'échange rien dans les parloirs. Et en fait, à travers cette petite vitre, elle regarde et elle voit son compagnon se faire prendre des coups dans la figure. Et elle sait qu'il crache du sang et qu'il n'est pas bien et qu'il simule pas. Et qu'Adil, c'est un homme très fort qui pleure rarement, qui avait subi une injustice déjà en prison après la mort de son frère, où il n'avait pas pu aller à l'enterrement, où une larme, il ne l'avait pas versée alors qu'il en était très peiné. Et là, il pleurait pour qu'on le soigne. Et voilà.
ouais, ça dit tout, parce qu'en fait, il y a déjà un premier moment où c'est elle qui appelle les matons, et eux, en fait, ils font évacuer le reste du parlu, c'est-à-dire toutes les familles qui s'en vont, les autres prisonniers qui remontent, là, pour la fouille ou quoi. Et elle, en fait, ils lui disent, si tu veux qu'on soigne Adil, si tu veux qu'il ait un traitement, il faut que tu te casses. Et donc, ils la mettent dans un box à côté. Et quand on dit que tout ça, en fait, c'est genre, ils sont au courant de l'état d'Adil, c'est que elle, quand elle arrive en parloir, d'abord, elle est convoquée par un maton supérieur, je sais pas quoi là, c'est quoi son grade de parloir quoi, qui va essayer en fait de lui expliquer, enfin voilà, de la retarder quoi. Donc ils sont là pour lui grignoter du temps et qu'elle se rende compte le moins possible que Adil il est en mauvaise santé, enfin qu'il va très mal quoi. Et c'est d'ailleurs, je crois que c'est des codétenus à lui en fait qui l'aident à descendre de.
C'est ça,
Et les matons, ils lui auraient même dit, bah en fait, si t'es pas en état de descendre, t'es pas en état de faire ton parloir et basta quoi. Tu vois, alors qu'en fait c'est la dernière fois qu'il va l'avoir. Donc c'est grave. Et ça rappelle aussi l'importance d'avoir des téléphones en prison. Parce que ce qui fait qu'elle a pu communiquer quand même un peu avec lui sur ses derniers jours avant le parloir. Savoir des choses aussi sur son état de santé, le manque de soins de l'administration, enfin l'absence de soins et le refus de soins de l'administration pénitentiaire. C'est parce qu'il avait un téléphone et que du coup il pouvait la tenir au courant. Et que du coup elle n'a pas que la version des matons, en fait, elle sait la vérité, quoi.
super dur hein, ce qu'elle a vécu. Franchement, c'est super dur. C'est l'une des histoires qui m'a le plus marqué en
Ah ouais, c'est.
dans, dans... Pourtant, on en a eu plein hein, mais c'est une histoire qui m'a bouleversée en vrai. Parce que mourir d'un ulcère à l'estomac et d'une souffrance aussi intense que c'est immonde. Immonde. C'est nuit de douleur, c'est nuit de souffrance, c'est immonde de laisser les gens dans cet état-là. Comment dire, en toute conscience, quoi.
Bah c'est ça, et puis en plus un ulcère à l'estomac, ça soigne quoi. Mais par contre, c'est vrai que c'est l'enfer quoi. Tu peux plus dormir, t'es obligé d'être assis tout le temps. Dès que t'es debout, dès que t'es allongé, bah en fait ça te dégomme le ventre, ça remonte. Enfin, c'est genre juste.
Comment tu peux dire à quelqu'un qui crache du sang, qui simule? Comment tu peux dire ça?
De la même manière, comment tu peux penser quand Sambali Diabaté il est déjà mort et qu'ils sont en train de le mettre au quartier disciplinaire, qu'ils le fouillent et qu'en fait ils voient qu'il s'est déféqué dessus. Comment tu peux penser qu'ils simulent pour faire chier les matons quoi? Enfin,
Incroyable.
ça montre qu'en fait, eux, ils sont vraiment clairement, en tout cas, en guerre contre les prisonniers, officiellement, quoi. Et c'est bien révélateur. Et de la même manière que Oumu, en fait, on en a pas mal parlé, mais la compagne d'Adil Téchi, je suis désolé, j'ai oublié son nom. Anne, en fait, elle a fait preuve mais d'une force et d'une dignité, mais qui est genre incroyable. En fait, le fait qu'il y ait un procès, c'est ce qu'elle dit à la fin de son texte. Elle dit, ma victoire sera d'avoir réussi à l'amener devant ce tribunal. Et bah ouais, en fait, parce que c'est pas comme quand c'est un flic qui porte plainte, c'est pas comme quand tu portes plainte pour un vol à l'arraché ou je sais pas quelle connerie. Pour réussir à ramener un médecin ou un maton au tribunal, en fait, c'est un vrai combat avant, quoi. Et que le procès, bah, c'est juste un tout petit bout de ce combat. Et qu'avant, il a fallu se battre pour faire exister la vérité, que ce soit pas juste classé comme toutes les autres histoires, parce qu'en fait, des histoires dures comme ça et de voilà de refus de soins où on laisse crever des gens, dont ils ont la responsabilité, hein, on le rappelle, hein, c'est pas Adil hein, qui a choisi d'aller à ces Quedins, quoi. Hein. Et bah, en fait, c'est énormément de combats pour la famille, et ça veut dire revivre l'histoire en permanence, quoi. Et ça veut dire ne pas réussir à faire son deuil aussi pendant des années et des années, quoi. Voilà.
Grave. Et le truc, c'est que attends, je suis en train de relire des échanges avec la femme d'Adil. Elle m'explique que bah, qu'elle je peux pas le dire. Tu comprends?
Bah, en fait, le truc, c'est que eux, ils ont l'air d'être passés assez vite à autre chose. Mais en fait, c'est ce qu'elle explique, c'est qu'elle, tous les soirs de sa vie, ou en tout cas là pendant longtemps, mais elle va revoir Adil dans son parlu allongé. Elle va imaginer en fait qu'est-ce que ça a été les derniers instants de la mort d'Adil. En fait, c'est quelque chose, elle, bah, déjà quand t'as un proche qui tombe à l'intérieur, déjà t'es un peu condamné avec lui parce que tu te manges d'aller en parlu, tu te manges de laver son linge, tu te manges de préparer le colis de Noël quand il y en a, hein, pas comme cette année. En fait, t'es déjà un peu enfermé avec lui, même si toi t'es dehors, quoi, ton quotidien il change de rythme. Et ben en fait, quand on tue un de tes proches à l'intérieur, c'est exactement pareil, quoi. C'est un peu comme si on avait tué un bout de toi, quoi, et que du coup, en fait, t'es condamné à revivre cette fin-là et toute cette horreur-là pendant longtemps, quoi.
Et le truc, c'est que Adil, il savait quand il est venu à ce parloir, il savait que c'était la fin. Il le savait.
Bah ouais, parce qu'il me semble que. Bah, elle le raconte pareil dans l'enregistrement d'après, là. Qu'en fait, quelques jours avant, il lui dit. Parce que sa mère, Adil, elle venait pas le voir en parloir. Et il lui dit, mais en fait, là, dis à ma mère de venir. Parce qu'en fait, ça va être la fin. Et tu vois, c'est la même chose avec Sambali. Hein. Oumou, elle le raconte très bien, tu vois. Et son frère aussi, il le racontait très bien. Quelques jours avant sa mort, il appelle toute sa famille en disant, mais je vais mourir, en fait. Je vais mourir. Et tu vois, là, les matons, ils disent, ah ouais, crise de démence. Pas du tout, en fait. C'est pas une crise de démence. C'est qu'il avait bien senti monter la pression des matons. Et qu'ils l'ont buté de cette manière-là. Mais ça aurait pu être d'une autre. Ça aurait pu être d'un refus de soins. Ça aurait pu être de plein de manières différentes. Et il le sentait venir, quoi. Et il avait raison. En fait, c'est pas un complotiste. Il avait tout à fait raison. De la même manière qu'Adil, il avait tout à fait capté qu'on était en train de le laisser mourir. Et qu'on allait le laisser mourir jusqu'au bout, en fait. Enfin, c'est-à-dire que c'est même pas. Enfin, on l'a même pas amené à l'hôpital. En extrême urgence à la fin, quoi. On a vraiment laissé mourir quelqu'un dont c'est en fait c'est exactement c'est l'administration pénitentiaire en général qui est responsable, plus particulièrement le directeur de la prison de Séguenin et plus particulièrement tous les matons, mais tous les matons qui ont été en contact avec Adil. Et donc ils auraient dû être très très nombreux dans ce box pour et je suis pas sûr qu'il était dans un box, hein. Je pense qu'il était à la barre, il devait comparaître libre, mais ils auraient dû être très très nombreux en fait, à comparaître dans ce tribunal. Pas pour manger des peines de prison, mais pour manger des peines d'interdiction d'exercer déjà, parce que c'est des matons complices d'une mort. Et que voilà, ça c'est une histoire dont on entend parler, mais pour combien d'autres? Pour combien d'autres? Et que c'est grave quoi en fait, parce que quand il n'y en a aucun qui comparaît, quand il n'y a que le médecin qui comparaît comme ça là et qui prend avec une réquisition à 12 mois de sursis, hein. Là on parle des réquisitions. Donc on imagine bien que le suivi sera encore plus faible, enfin le délibéré. Et ben en fait ça veut dire que l'impunité elle est entretenue quoi. Tu vois, c'est vraiment genre on dit aux matons, et eh ben ouais, continuez de laisser mourir des gens, continuez de refuser des soins, il va rien vous arriver.
Et quand on voit qu'au procès, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu le délibéré de l'avocat de Adil et de la famille, et après l'avocat du médecin est tombé dans les pommes. Donc il a eu 3 semaines pour pouvoir préparer son réquisitoire après avoir entendu celui d'Adil. Enfin, de la famille d'Aïl, de l'avocat, et pouvoir argumenter comme il a envie d'argumenter, quoi. Je sais pas si, encore une fois,
Et dans le...
c'est quand même ridicule.
Ah ouais, non mais dans le même moment, par contre, il y a des personnes en centre de rétention au Ménil-Amelot qui sont jugées sans aller au tribunal, sans visio, donc sans contact avec leur avocat en fait, s'ils ont un avocat commis d'office. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, laisser les droits de la défense à ce médecin, à cette espèce de médecin là, je sais pas si c'est tortionnaire, mais en tout cas complice de mort, ça, il n'y a pas de problème quoi. Et en fait, c'est toujours la même chose quoi. Le droit, il est toujours utilisé contre notre gueule et toutes les garanties qu'il y a dans le droit pour protéger, carrer les procédures, ça, tout d'un coup, elles refonctionnent que quand c'est des violences policières, des violences de matons ou des bourgeois qui sont au tribunal quoi. Sinon, t'en entends jamais parler en fait. Il n'y a jamais quelqu'un qui a un bouton, enfin, un grain de beauté cancéreux qui apparaît, qui est libéré de la santé au bout de 6 mois, tu vois. Ça n'existe pas en fait. Faut s'appeler
Non.
Balkany, tu vois.
Pourquoi je le dis? Parce que c'est comme subir une autre injustice en vrai de la part de l'État pour Adil. Parce que en réquisitoire, normalement, c'est tout de suite. Et que c'est important en vrai, le dernier réquisitoire, et c'est généralement les jurys ou le président, le dernier réquisitoire, c'est celui que tu retiens le plus, tu vois.
Exactement, ouais.
Et donc là, il a été entendu 3 semaines après les faits. Donc on a oublié carrément la peine de la famille. Et là, on entend, on refait une heure de procès ou je sais pas combien de temps de procès, juste pour entendre le réquisitoire de cet avocat qui est pour le médecin. Je sais pas comment t'expliquer ça, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, non, mais je vois très bien. Et de toute façon, même si tout le procès s'était tenu en un bloc, on n'aurait pas trop douté ni du délibéré, ni des réquisitions, parce que les
Voilà, c'est
réquisitions, elles sont écrites à
là.
l'avance, tu vois. Mais ce qui est évident, c'est que ça permet encore plus de légitimer et de faire que le juge il se sente tranquille, de même pas questionner l'interdiction d'exercer, de même pas questionner le vrai rôle de ce médecin et de tous les autres qui manquent, quoi.
Non,
Bah,
c'est clair.
du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe le... Enfin, ce que je te propose, c'est qu'on passe l'enregistrement. Et puis voilà, puis après on se rejoint à la fin de l'émission et voilà pour dire un peu les coucous, les au revoir. Et voilà. On passe un petit peu de musique et on passe l'enregistrement.
C'est la guerre comme entre Hutu et Tutsi. Pour sucer un Zemmour, y'a toujours une Absatoussi. Personne n'en a rien à foutre que plein nombre d'Hitler. T'as pas de problème tant que ta fibre j'affiche l'air. Ils fabriquent des oumarsis pour cacher une forêt d'arbres qu'ils considèrent pourris, de leurs racines à l'écorce. L'ignorance, le mépris de l'étranger le pousse à le pouvoir exister à travers des rapports de force. Tu me vois sonner chez ma voisine vers midi. Ça l'usera pour le djihad en Syrie. T'as un alibi? Le terrorisme, l'État islamique, hein, qu'est-ce que tu faisais? Vas-y, laisse tomber, t'as pas du lait? Quand un type se fait décapiter, tu demandes aux musulmans français de se désolidariser, à te faire sodomiser. Et il faudrait que ceux qui t'ont obéi se libèrent de leur putain de complexe de colonisés. Faudrait que les MC ferment leur bouche. Ils font chier avec leur clash quand il nous faudrait un putsch. T'es dingue, ils sont pas s'installer, ce qui va faire passer les émeutes de 2005 pour une petite bringue. Au sommet de ces cicatrices qui a jamais nous marquèrent, il y a des traits à la règle qui ont tracé nos frontières. est la terre mondialiste. Moi en France je suis le négro. Va sauver le monde, j'essaie de sauver ma peau. À ceux qui ne reconnaissent pas quand il est juste sous leurs yeux que tout ce qu'ils bouffent en a le goût. Quitte à avoir une étiquette de plus, je préfère encore être taxé de voir le racisme partout. En passant, j'apprendrai à Sagnol à ne pas pleurer quand il est touché, qu'il a de la peine ou de la haine. On est descendants d'esclaves, de colonisés. On a des siècles d'expérience dans ce domaine. Liberté, égalité, fraternité, c'est sur ça que t'as misé, c'est sur ça que t'as misé. Tu t'es trompé ici, c'est le pays des lumières t'as misé. Le pays des lumières t'as misé. Liberté, égalité, fraternité, c'est sur ça que t'as misé, c'est sur ça que t'as misé. Tu t'es trompé ici, c'est le pays des lumières t'as misé. Le pays des lumières t'as misé. C'est le pays des lumières t'as misé. Des lumières t'as misé. Le pays des lumières t'as misé. C'est le pays des lumières t'as misé. Des lumières t'as misé. Le pays des lumières t'as misé. C'est le pays des lumières t'as misé. Des lumières t'as misé. Le pays des lumières t'as misé. C'est le pays des lumières t'as misé. Des lumières t'as misé. Le pays des lumières t'as misé. T'as misé. T'as misé. T'as misé. Des lumières t'as misé. T'as misé. T'as misé. T'as misé. Des lumières t'as misé. T'as misé. T'as misé.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée. Nous avons un coup de téléphone. Donc c'est la femme de Adil Teshi. Allô, tu nous entends ?
Oui, je vous entends.
J'ai pas osé de dire ton nom en fait. C'est pour ça que j'ai bugué un petit peu là. J'ai pas osé de dire ton nom. Attends, vous pouvez monter ? Ouais, tu m'entends ?
Ouais, je t'entends.
Parce que moi je t'entends très de loin. Non, ça vient pas de toi, ça vient de nous. Hein.
D'accord.
Voilà, là c'est super. Donc tu te présentes un petit peu en...
Donc bah, moi c'est donc Anne Guénantin, je suis la compagne d'Adil Teshi qui est décédée donc en maison d'arrêt de Sequedin dans le nord de la France. Donc qui est décédée par manque de soins, refus de soins, donc d'un ulcère à l'estomac, donc il s'est bouché et puis perforé. Et donc il est décédé le 12 février 2016. Et puis bah, depuis, je me bats avec la pénitentiaire pour que la vérité
sorte
en fait, puisque depuis le début, on dit, enfin, j'ai un peu tout entendu, qu'il s'était suicidé, qu'il avait ensuite, quand on a prouvé qu'il s'était pas suicidé, ça a été qu'il refusait les soins. Enfin voilà.
Donc, tu peux expliquer les circonstances du décès sans vouloir remuer le couteau dans la plaie.
Il n'y a pas de souci. Donc, en fait, Adil, il se prend une peine de mitard de 15 jours. Il sort du mitard, donc je le vois très, très fatigué, très affaibli. Bon, bah, on peut comprendre, hein, 15 jours de mitard, c'est pas rien.
C'est clair.
Lui-même le justifie par le mitard, quoi. Et puis, ben, ça s'arrange pas. Au fur et à mesure du temps, il s'affaiblit de plus en plus. Il me dit qu'il est fatigué, qu'il a du mal à dormir. Il demande à voir le médecin, donc on lui dit qu'il est pas autrement qu'un autre et qu'il y a des listes d'attente même pour lui. Donc ça continue, on arrive début décembre, donc avec le moment des colis, Noël, tout ça. Il se faisait une joie de recevoir d'ailleurs. Et puis donc on lui apporte les colis, puis malheureusement il nous dit qu'il perd l'appétit. Il commence à vomir du sang, donc on est en décembre. Donc perte d'appétit, forcément amaigrissement. Alors moi il me dit pas, je pense, pour pas me faire peur.
Pour pas t'inquiéter.
Pour pas m'inquiéter, je pense qu'il me dit pas tout de suite. Je l'ai su qu'après par les femmes de détenus, tout ça. Où il commence déjà en décembre à faire des malaises. Où il sort presque plus en promenade. Moi, ça, je le sais pas. Il m'envoie, après ça commence, donc il m'envoie plusieurs textos où il se plaint. Donc je lui dis, bah écoute, il faut voir le médecin. Le médecin ne bouge pas. Non, le médecin, de toute façon, voilà. Que médecin et psy, on lui dit que c'est dans sa tête parce qu'il n'a rien. On le soupçonne de vouloir s'évader, donc il ne peut pas avoir non plus accès à l'ensemble des soins à l'extérieur aussi. Ensuite, on lui dit qu'en fait c'est pour se faire prescrire des médicaments. Alors, Adil, il n'y a aucun passé en toxicomanie ou quoi que ce soit, donc je ne vois pas pourquoi il insisterait pour se faire prescrire des médicaments. J'appelle, moi, la direction. On me dit que, de toute façon, à l'intérieur, il y a un médecin. Si le médecin ne juge pas nécessaire de l'extraire ou même de lui prescrire un traitement, c'est pas moi et c'est pas à moi d'en juger. On finit par lui faire une prise de sang. Adil ne verra jamais les résultats. Le docteur lui aurait juste dit qu'il avait un taux de globules blancs élevé. Donc, c'est ce que je dis, je suis pas médecin. Mais ça veut dire qu'il y a déjà une infection sans avoir fait des années de médecine, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe.
Et que ça, et qu'il est plus immunisé, en fait.
C'est que ses défenses, c'est bon. Donc, je le dis à Adil, il me dit, écoute, je sais pas, il faisait encore un peu confiance au médecin en disant, il sait mieux, s'il me dit ça, c'est que... Donc, je lui dis, écoute, demande l'accès à ton dossier médical, tu dois pouvoir voir toi et lire ces résultats. On lui refuse, je prends contact avec l'OIP, qui me donne plusieurs textes de loi en m'indiquant que tel article, on a le droit d'accéder à son dossier médical. Donc ça continue tous les jours. Il me dit qu'il ne dort pas, qu'il pleure la nuit tellement il souffre. Quoi. Et il n'en peut plus, il ne se nourrit toujours pas. Donc là, au parloir, là, je commence vraiment à le voir fatigué. Alors, fatigue physique, forcément, et fatigue morale, en fait. Parce que Adil, c'est quelqu'un normalement de... C'est un battant, en fait. Il se laisse pas. Il a vécu des drames et pourtant, il est toujours resté debout et fort. C'était le pilier, vraiment, de sa famille. Mais là, je vois que moralement, il en a marre parce qu'on ne croit pas. La psy qui lui dit, vous, les Méditerranéens, vous avez tendance à exagérer.
La psy, elle est facho, déjà.
Voilà, quoi. Donc, Et puis, donc tout ça, on continue. Décembre, janvier, il fait que maigrir, que je fais que écrire, que lui aussi demande, lui et d'autres détenus demandent à ce qu'Adil voie le médecin, puisque les détenus sont mobilisés aussi, en voyant comment son état se dégradait. Ça non plus, je l'apprends que lors du dernier parloir. Je sais maintenant qu'il se faisait aider, en fait, pour venir au parloir. C'est les détenus qui le portaient, parce qu'il n'arrivait plus non plus à descendre le bâtiment jusqu'au parloir. Et puis arrive le mois de février, le 10. Alors à savoir que le 9, en fait, il m'envoie un texto où il me dit qu'il crache beaucoup de sang, qu'il s'inquiète, que ça va pas. Donc on avait parloir le lendemain. Je lui dis, écoute, confirme-moi si demain on t'emmène à l'hôpital. Puisque moi j'ai appelé la SPIP et aussi la directrice. On m'avait assuré que tout était prévu pour qu'il soit soigné. Je lui dis, dis-moi si je viens demain au parloir. Il m'appelle le midi, il me dit oui, viens. J'arrive ce jour-là au parloir, donc au dernier tour, à 16h30. Et puis toutes les familles passent, elles s'installent dans les box. Puis je dis, je dois venir. Puis là, il y a un surveillant qui me dit, non, mais toi, tu restes là. Il y a le chef des parloirs qui veut te parler. Bon, ok, j'attends, personne. Je commence un peu à m'impatienter, à m'énerver aussi, parce que je dis, c'est bien beau, mais moi, je viens pas le voir 10 minutes, quoi.
Et puis t'es pas venu les voir eux, quoi, en fait. Donc,
Ouais, non, puis en plus, je suis toute seule dans la salle d'attente, en fait. Je veux voir Adil.
Tu te dis, qu'est-ce qui se passe là-haut?
En connaissant son état de santé, quoi, je me dis, ça va pas, quoi. On finit par me placer dans le box, puis je vois Adil arriver, mais alors, une mine vraiment décomposée, mal, mais malgré tout en colère. Et il me dit, ils veulent me rendre fou, ils m'ont dit que t'étais pas là, que j'avais fantôme. Alors qu'on s'était eu, puis j'irai jamais en 15 mois d'incarcération, j'ai pas raté un parloir. Et ils l'ont transféré à 800 km et j'y suis allée, j'ai pas manqué non plus un parloir. Puis il me dit, je savais très bien que t'étais là. Sauf que pour se rendre à ce parloir, Adil a eu beaucoup de mal, il avait demandé un fauteuil roulant, on lui a refusé. C'est les détenus qui m'ont aidé à marcher. Ça aussi, ça a été une bataille parce qu'on lui a dit si t'es fatigué, si t'arrives pas à marcher, t'es pas en état d'honorer ton parloir, donc tu n'y vas pas. Bon, il a pris ses dernières forces, il est venu. Et puis dans ce parloir, donc il s'assoit pas. Quand il arrive, il s'assoit au sol, en fait, parce qu'il me dit que le froid lui fait du bien. Et il me dit, s'il te plaît, masse-moi, ça va pas. Donc je le masse. Il y a la chef des parloirs qui vient, qui lui dit de se lever parce qu'elle en a marre de son comportement, il y en a marre de ton cinéma, comme elle dit. Lève-toi, c'est pas une tenue correcte dans un parloir. Il n'arrive pas à se lever, je dois le lever, moi. Donc là, tout de suite, en le prenant, il n'avait plus que la peau sur les os, en fait, mais comme il s'habillait avec des gros pulls et tout ça, je m'en étais pas vraiment aperçue. On voyait qu'il avait les joues creusées, mais à ce point-là, c'était affreux. Je le pose sur la chaise, et puis là, il commence à pleurer, en fait. Alors que ça faisait 7 ans que j'étais avec lui, je ne l'ai jamais vu verser une larme. Il pleure et puis il me dit pardon. Il m'a dit, je te demande pardon. Je lui dis, pardon pourquoi? dit pour la prison, pour tout ce que je t'ai fait connaître. Il m'a dit, je te demande pardon parce que je vais mourir. Donc, bon, bah, on garde la face devant lui. Je dis, bon, arrête de dire n'importe quoi, tu vas pas mourir. C'est pas possible. Et il s'énerve un peu en me disant, tu comprends pas, hier soir, j'ai vu la mort. Je vais mourir. Il m'a dit, donc, s'il te plaît, parce que sa maman ne venait pas au parloir, il dit, demande à ma mère qu'elle vienne parce que je veux lui dire au revoir. Donc, pareil, là, je lui dis, mais non, je vais sortir de là, on va appeler ton avocat et t'inquiète, soit tu vas être transféré, parce que l'avocat souhaitait le transférer dans une autre maison d'arrêt, ou tu vas aller à l'hôpital, on laisse pas les gens mourir, c'est pas possible. Donc là, il me raconte qu'il a fait des malaises toute la semaine, qu'on l'a laissé dans la cour de promenade allongée, qu'il devait aller à une visite médicale, qu'il n'a pas pu se lever. Il m'avoue aussi, à ce moment-là, qu'il n'arrive plus à se lever pour aller aux toilettes. Donc ça, des surveillants qui en sont témoins, enfin qui voient l'état de ses draps et tout ça. Et malgré tout, en fait, le médecin dit, ben voilà, il n'y a pas d'exception pour Taichi. Si vraiment il est malade, c'est à lui de venir me voir et pas à moi de me rendre dans sa cellule. Donc il y a même un surveillant qui s'énerve. Et puis, donc moi, à l'issue de ce parloir, on annonce la fin du parloir. Adil se lève tant bien que mal. Et puis il retombe en fait, mais vraiment comme une masse, il tombe. Donc je le mets en position latérale de sécurité, voilà, j'ai eu la chance d'avoir ces cours-là. Je lui parle, il ne me répond pas, ses yeux, donc, on voit qu'ils sont un peu retournés en fait, ses yeux. Sa main est de plus en plus froide, je lui parle, il ne me répond pas. J'appuie à l'interphone qu'on a dans les parloirs. On me dit ok, on avertit le chef des parloirs. Et puis là, je vois du sang qui coule de la bouche d'Adil. J'apprendrai plus tard que l'hémorragie avait déjà commencé. Et puis, bah, personne. Toutes les familles sortent, une à une, passent devant le box où on est avec Adil. Elles interpellent les surveillants qui sont du côté famille. On leur dit, c'est bon, on est avertis, on n'est pas pompiers. Donc là, du côté famille, ça commence un peu aussi à chauffer, parce qu'elles voient qu'il y a un homme à terre et qu'il n'y a personne qui bouge, quoi. Donc, elles commencent aussi à protester. Moi, je tape aux portes, je crie, il n'y a personne qui vient. Il leur faut 6 minutes. C'est long, 6 minutes, quand il y a un homme qui est à terre. Et enfin, moi, je me trouvais impuissante, quoi, face à ça, ils ne répondaient plus. Donc de là, ils arrivent, tous les gradés sont arrivés. C'est la première fois que je les voyais tous, hein, ils viennent. Voilà. On me dit, vous sortez. Je dis, non, moi, c'est hors de question, je ne les laisse pas comme ça, quoi. C'est, enfin, non. Puis donc là, il y a un lieutenant, j'ai su après que c'était un lieutenant. Elle se met, mais vraiment, face à moi, genre, elle m'a mettre un coup de tête, presque, hein. Et elle me dit, de toute façon, si tu sors pas, on ne fera rien pour lui. Voilà, comme ça, c'était clair. Donc je redemande à Adil, qu'est-ce que je fais? Il ne me répond pas. Donc bon, ben, je me résous à sortir. Il m'amène en salle d'attente, mais il ne ferme pas la salle d'attente de suite. Et en fait, c'est des portes vitrées. Donc je vois juste en face, en fait, le box où on était, comme par hasard, donnait juste en face de la salle d'attente. Et là, je vois qu'en fait, il me donne des coups de pied à Adil, en disant, non, tu te lèves, il y en a marre. Enfin, des trucs... Donc là, les familles continuent à protester. Moi, j'étais en pleurs. Je tremblais, j'étais en pleurs. Je ne savais plus comment réagir, en fait. On nous ferme la salle d'attente famille. Et là, je vois, en fait, à travers la porte qu'on traîne Adil par le col de son pull. Ferme la porte. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai. C'est la dernière image que j'ai d'Adil. C'est inconscient, traîné par tous les surveillants là, au sol. Donc... surveillants viennent nous faire sortir des parloirs, puis je leur dis, vous êtes qu'une bande de cons, c'est honteux ce que vous lui faites. Et il me dit, moi, c'est bon, Taichi va très bien. Donc je lui dis, c'est une blague, il sait même pas marcher, il tient même plus debout. Enfin, il me dit, ouais, c'est ça, il court, même. Donc je sors du parloir, il y a toutes les familles qui viennent me voir en me disant, s'il faut qu'on témoigne, on est là, faut pas les laisser faire, c'est pas possible. Et puis là, on commence à me dire, mais tu sais, mon fils, mais tu sais, mon mari s'inquiète pour Adil. Donc je me dis, bon, sa situation a été connue de tous. Et donc je sors, j'appelle l'avocat, il me dit, bon, demain, c'est nécessaire, il faut que ça bouge, on ne peut plus le laisser comme ça, quoi. Il faut vraiment faire quelque chose. J'appelle les pompiers, je décris ce qui s'est passé. Les pompiers me disent, bon, bah, par rapport à ce que vous nous racontez, c'est vers le SAMU qu'il faut vous réorienter. Merci. J'appelle le SAMU, on me dit, madame, c'est très grave ce que vous nous racontez, mais on ne peut pas accéder comme ça à la maison d'arrêt, il faut qu'on rentre en contact avec eux. Donc ils mettent en attente pendant qu'ils contactent la maison d'arrêt. Ils me reprennent, puis ils me disent effectivement, ils sont au courant qu'il y a eu un incident au parloir, mais ça ne nécessite pas l'intervention du SAMU. Tout va bien.
Donc il refuse de laisser rentrer le SAMU à l'intérieur de la tour.
Tout à fait. Ouais, ouais. Le SAMU ne peut pas intervenir. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas qui ils ont eu. Et, enfin, c'est certainement pas un médecin. Mais quelle personne avec elle, enfin, qui a pu se dire, bah non, Adil n'a rien, c'est du cinéma. L'enquête, ça, j'espère qu'elle... parce que je vais aussi me retourner contre cette personne-là qui a bloqué l'accès au SAMU.
Et Anne, puis, oui. Excuse-moi, là, tu parles d'enquête, en fait. Nous, à chaque
cette,
fois...
L'enquête qui est ouverte pour homicide involontaire.
À chaque fois qu'il y a un décès, on dit au minimum c'est une non-assistance à personne manger. Là, ouais. Là, il y a carrément un défaut de soins. Et bon, la pluie, on est habitué... Voilà. On est habitué à leur cynisme et tout ça. Mais peut-être faut taper sur le médecin. Là. C'est peut-être le maillon faible qu'il faut...
Alors, c'est peut-être. C'est que c'est le maillon faible et l'enquête l'a prouvé. Quoi, parce qu'il y a eu... Donc, il y a eu l'autopsie, il y a eu un expert qui a été désigné. Et donc, l'expert, qui a apparemment une pointure dans le domaine, indique que forcément, avec tous les incidents qu'il y avait eu les jours suivants, les malaises et tout ça, il fallait l'opérer. Enfin... Mais même c'était opérable encore. Et... Alors on me dit que c'est le protocole, c'est machin. Enfin, on se cache derrière plein de choses. Que Adil c'était un détenu DPS, donc c'était pas quelqu'un qu'on transférait comme ça facilement.
Donc ça veut dire qu'il a le droit de crever. Il a le droit de crever au point par là.
Clairement, bah, parce que en fait c'est voilà, Adil est rentré entre, il faisait 1m80 kg. Le poids d'autopsie faisait 57 kilos.
Tu sais que l'administration pénitentiaire est aussi fautive, puisque déjà quand il le place au mitard, son état de santé n'est pas compatible avec le mitard. Déjà bah,
il se plaignait, mais en fait il avait encore. Après c'est vrai, moi j'ai eu l'enquêteur de police qui a pu voir les vidéos qui se passent après le parloir. Moi j'ai pas eu accès forcément, mais apparemment Adil à un moment où il arrive à se relever. Et on me dit, mais voilà, s'il arrive à se relever, s'il a encore un peu de force. Mais c'est ce que je dis, Adil, c'était quelqu'un mentalement très, très fort. Et je me dis, voilà, qu'est-ce qu'on lui a dit, qu'est-ce qu'on lui a fait. Il a peut-être eu un moment où ben, la colère, elle a repris le dessus. Parce que moi, j'ai des textos où il me dit, il est très faible, mais il me dit, moi, je veux juste guérir et après, on verra. Et ça me faisait peur de me dire, mais il va guérir et après, enfin, le connaissant, il aurait été, avec ses termes à lui, comme il me disait, je vais faire une dinguerie. Parce qu'il se voyait vraiment... partir, ils voyaient que ça allait pas et on faisait rien pour lui. Il me dit, on prend pour un tox. Et bon, il était conscient de toute façon pour me dire qu'il allait mourir deux jours avant, c'est que il savait très bien ce qui était en train de se passer. Maintenant, quand je reprends par rapport à la fin du parloir, je sors, j'appelle le SAMU, je rentre chez moi. Le lendemain, la SPIP d'Adil m'annonce que mon permis de visite a été suspendu. Avant même qu'il y ait une réunion ou quoi que ce soit, pour 6 mois, parce que j'aurais insulté le lieutenant de sale pute. Voilà. Donc
tu vois en fait ton compagnon qui est en train de crever, tu t'énerves contre
les matons
qui sont en train de foutre des coups de pied à ton compagnon et on te prive de ton permis, quoi.
Alors, c'est ce que j'ai dit. Alors, je me suis renseignée, j'ai pas effectivement bande de cons, tout ça, on m'a confirmé, je l'ai bien dit. Sale pute, on m'a dit non, t'as pas employé ces termes. Et c'est ce que j'ai dit. Et même, quand bien même je les aurais dit, l'effet du stress et ce qui était en train de se passer, je pense que s'ils sont humains, ils peuvent comprendre.
Totalement d'accord.
Là, non, ces sanctions, et pas un mois, pas une semaine, pas un jour, on me met 6 mois. Et après, j'ai appris, Adil était prévenu, il n'était pas encore jugé définitivement. Donc, c'était même pas la directrice de prendre cette décision-là.
Non, c'était
voilà, tout à fait. Ça, je l'ai appris que plus tard, sinon je me serais pointée. Enfin, après ce que je me serais pointée au parloir pour faire là vraiment un bordel et faire bouger les choses, parce que les familles m'avaient contactée, ils m'ont dit tu rentres, et nous-mêmes, on sort pas tant que les pompiers n'interviennent pas pour Adil, donc il y avait vraiment une mobilisation pour lui aussi. De toute façon, c'est ce qui a été fait par les détenus quand ils ont appris le décès d'Adil, ils ont bloqué les promenades, parce qu'eux étaient très en colère en fait, parce qu'eux-mêmes avaient averti en disant il faut faire quelque chose pour lui, ça va pas. Et, voilà,
ouais, quoi, tu m'as. Tu m'as envoyé quelques lettres et tout ça. On peut qu'on écrit des compagnons de cellules, enfin pas que de cellules d'ailleurs, mais d'enfermement.
Bah, de détention.
Ouais. Et je veux juste certaines phrases quoi. Donc là c'est un texte qui est signé par 5 détenus. La question que nous posons bien, que conscient que nous pourrions éviter.
Inévitable.
Ouais. Nous avions signalé à plusieurs reprises l'urgence indéniable de la situation critique de notre camarade. Son épouse a plusieurs fois manifesté son angoisse et son incompréhension au parloir sans succès. La question que nous nous posons bien, que conscient que nous pouvons éviter l'inévitable, est de savoir si la vie d'un détenu n'a-t-elle pas la même valeur que celle d'un citoyen libre. Voilà, et ça revient tout le temps, quoi. Que ça m'arrivait de le croiser, c'était affolant, il maigrissait à vue d'œil. Il avait une sale mine et son état, il aurait dû être hospitalisé. Voilà, enfin, et à chaque fois, enfin voilà, puis même toi, tu le dis et tout ça, parce que voilà, tu dis que bah, ça fera pas revenir Adil, qu'il faut qu'il soit puni et surtout que ça revienne, enfin, que ça puisse jamais se reproduire, quoi.
Plus jamais. Et apparemment, en plus, dans cette maison d'arrêt, on entend beaucoup, enfin, il y a beaucoup de suicides, hein, suicides entre guillemets, bien sûr.
J'entends bien.
Mais alors là, manque de chance, moi j'ai tous les textos d'Adil où il me racontait ça va pas, ou parce que moi, aussi, hein, c'est des gens très humains là-bas. Ils étaient limite prêts à porter plainte contre moi après le décès parce que j'ai fait rentrer des médicaments.
Ah, ok.
Parce que j'ai fait rentrer des médicaments et puis le portable, d'où il venait, parce que j'ai avoué, j'ai dit oui, il avait un portable, oui, c'était même un abonnement à mon nom. Mais heureusement aujourd'hui, parce que sans ça, on n'aurait pas pu communiquer. Aujourd'hui, j'aurais pas de preuve de tout ça. Parce que j'ai des pages de textos où il me dit que ça va pas, où il me dit qu'il y a un surveillant qui lui donne des médicaments, tel médicament, et il me demande d'aller voir son médecin pour qu'on puisse lui en prescrire les mêmes, parce qu'au départ, ça le soulage. Tout ça, c'est des preuves. Alors, bien sûr, c'est ce que je dis, tout ce que je fais aujourd'hui, ça ne le rendra pas à Adil. Mais en son nom, si ça peut faire bouger les choses et qu'il fasse attention pour les prochains, bah, ce sera déjà pour lui une victoire. Parce que, comme je dis, peu importe ce que la pénitentiaire me dit, que c'était pas un détenu facile, que, enfin, moi, c'est pas l'homme que j'ai connu. C'est pas ce que racontent les détenus non plus, les témoignages que j'ai. Adil, c'était quelqu'un d'humain, d'entier. Et un truc qui m'est pas, c'était l'injustice. Alors je me dis, si je peux lui rendre justice à lui, ce sera déjà lui rendre un bel hommage. Et si ça peut aider d'autres drames comme ça, si là où il me voit, je pense qu'il sera content. Oui. De dire que voilà, son drame à lui aurait servi à inviter plein d'autres, quoi.
Et il y a un truc que tu m'avais dit, c'est que en fait, dès le début de la détention à Sequedin, il y avait, on sait de toute façon Sequedin, quand ça a ouvert, ça a été une catastrophe dès le début. Mmh. Et sauf que Adil, il s'est pas laissé faire.
Alors dès le départ, ça a commencé un surveillant qui lui a dit Taïchi, un jour je te niquerai. Voilà, le décor était posé dès le départ. Ensuite, on a mis sur le dos à Adil une bagarre où un détenu avait été violemment agressé. Adil n'était pas présent ce jour-là en cours de promenade. Donc, avec son avocat, il a demandé à avoir accès aux vidéos pour prouver son innocence. On a refusé de lui donner accès à ces vidéos. Donc, Adil a dû porter plainte au niveau du tribunal administratif. Donc là, on lui a dit, tu veux faire du zèle, tant pis pour toi. On l'a changé de cellule je ne sais combien de fois. Ses mandats n'arrivaient pas, les cantines, pareil. Ensuite, il a été transféré à Lorient, donc à 800 km de Lille. Pareil, son pactage, je ne sais pas si on appelle ça comme ça.
Si.
Eux ne l'ont pas fait. C'est moi. Donc Adil est resté pendant un mois avec un pull, un caleçon, un t-shirt, une paire de chaussettes. Un mois, c'est le temps qu'il m'a fallu, moi, pour récupérer ses cartons, parce qu'eux ne sont pas... Voilà, et de les ramener à la maison d'arrêt de Lorient. Parce qu'eux, à chaque fois, il y avait un problème. Quand j'ai récupéré les cartons, j'ai quand même regardé à l'intérieur. Alors, ses vêtements propres étaient avec des bouteilles d'huile. Il y avait des paquets de cigarettes, ça on lui a pas mis. Par contre, on m'a mis toute la nourriture moisie, les assiettes qui avaient pas été lavées parce qu'on est venu le prendre comme ça le matin et sans prévenir. Donc lui avait sa vaisselle, donc toutes les affaires, enfin pendant un mois.
Ça c'était vraiment pour te faire chier parce que étant une ex-prisonnière, tout ce qui est vaisselle, tu leur restitues avant de partir. C'est à eux, ça leur appartient puisque quand tu casses une assiette, tu dois la rembourser l'assiette.
Eh ben oui.
Voilà, mais... donc c'était vraiment pour te faire chier.
Ah ouais, mais de toute façon, bouteille d'huile, bouteille de vinaigre dans les vêtements...
Oui, ça peut que être pour te faire chier, de toute façon.
Adil m'a écrit une lettre où il me dit « Ils veulent me faire craquer moralement, mais t'inquiète pas, je suis plus fort que... »
Ouais, te faire chier, puis il y a une volonté de vengeance déjà de la paix, là. Vu que lui, c'est un peu, il s'est pas laissé faire au départ.
Ah ouais, mais clairement. Moi, je sais que quand je passais au parloir, alors moi, c'était la première fois, je connaissais pas du tout... Il y avait un surveillant qui se mettait près du portique, en fait, où on passe, avec ses clés, donc forcément, ça sonnait. Et Adil, je lui dis, mais je comprends pas, à chaque fois je sonne, il me dit t'as rien. Je dis, non. Alors moi, pareil, il a des familles qui rentrent avec des vestes, des machins. Moi, je devais être en débardeur à chaque fois que je passais. C'était. Il y avait une réelle volonté, mais nous, à la base, ça nous amusait. Parce qu'on disait, mais cherche. Adil, à chaque fin de parloir, alors que maintenant c'est interdit, il est allé à la fouille. À chaque fin de parloir, tout le temps. Et on disait, de toute façon, un jour, on trouvera. Donc Adil, il disait, mais je m'en fous. Voilà, ces termes, s'ils veulent voir mon cul, ils le verront autant de fois qu'ils veulent, je m'en fous. Et même le jour où, le vendredi où il a fait le malaise, on l'a amené à la fouille ce jour-là. Alors qu'il, voilà, qu'il était incapable de marcher, alors que. Voilà.
Oui, on le voit. Ils ont quand même été capables de le foutre
à
poil.
Était prévu. Oui, on m'a dit qu'il était prévu. Donc voilà. Il était prévu pour la fouille. Donc, ben, comme il faisait semblant, comme il simulait, ben, on l'a ramené à la fouille quand même. Puisque c'était ça, en fait, il simule. Donc. Donc je vois dans les rapports en fait où ils osent dire que c'est Adil qui a demandé à ce qu'on le traîne par terre parce que ça lui fait du bien. Bah voilà, oui. Je sais pas, il devait être un peu maso, hein. Enfin, c'est connu, ça fait du bien de se faire traîner par terre.
C'est l'argument qu'ils ont donné, et bah putain.
Ah ouais, parce bah, certainement que les vidéos, moi ça je les ai pas vues, mais certainement où on les voit traîner Adil par terre. Donc bah, y a cette charmante lieutenant qui m'a accusée là, elle dit que c'est Adil, s'il vous plaît, traînez-moi par terre, ça me fait
bien
du bien.
Sûr.
Et qu'elle, en fait, quand ça s'est passé, elle est rentrée dans le box parloir. Elle n'a pas dit « tu sors, on fera rien pour lui ». Non, non. Elle m'a demandé gentiment de sortir. C'est moi qui l'ai agressée. Et puis, ensuite, elle s'est abaissée sur Adil. Et puis, elle lui a dit « mais Adil, arrête, tu fais peur à ta visiteuse ». Puis, elle lui a proposé de l'eau.
Et là, excuse-moi, au niveau procédure, là, t'en es où alors ?
Alors, dans un premier temps, donc, c'est un dossier pour recherche des causes de la mort qui a été ouvert.
Ouais.
Donc là, ils ont vu que ben, c'était un ulcère perforé et puis qui a éclaté, qui a eu une hémorragie.
Ça, excuse-moi, au niveau médical, par exemple, c'est un phénomène qui met combien de temps pour savoir depuis combien de temps il laisse crever, en fait, parce que ça, médicalement, ça va être attesté, quoi.
Alors, voilà, donc dans le rapport d'autopsie, ça ne s'est pas daté précisément. Ils disent que c'est ancien. Mais ancien quand, on ne sait pas dire.
Ancien, toi, avec tes textos, ça va se recouper, quoi. Donc ça va être avéré.
Oui, voilà, ça, c'est la chance que j'ai d'avoir tous ces textos, c'est qu'on peut certainement, pourront peut-être plus situer. J'ai vu, alors c'est peut-être des choses que je n'aurais pas vues, j'ai vu les photos d'autopsie. C'est impressionnant le trou qu'il y avait, en fait, dans l'estomac, en fait. Et tout le monde m'a confirmé qu'il a dû extrêmement souffrir. Vu l'état, en fait.
Déjà, juste quand j'ai des brûlures d'estomac, je souffre.
Ouais.
Alors, un ulcère, c'est.
On m'a dit, j'ai mon médecin traitant à qui j'ai fait voir un peu le dossier, il m'a dit qu'il a dû souffrir. Alors, bon, ça me fait plaisir un peu. On m'a dit, si vraiment il est venu à ce parloir-là, il t'a donné ses dernières forces. Donc, bon, ça me touche et je l'appelais mon gros. Et ce que je me dis, je le reconnais un peu, mon gros, en fait. D'aller jusqu'au bout, en fait. Donc là, recherche de la mort fermée, donc ça met quand même en évidence.
Au départ, il y a eu un chef d'inculpation qui était non.
Alors au départ, moi, avec l'avocat, dès le départ, on a déposé plainte pour homicide involontaire et non assistance à personne en danger. Le parquet a ouvert une instruction pour recherche des causes de la mort. C'est ce qui est apparemment prévu à chaque fois qu'il y a un décès en détention. J'ai rencontré la juge d'instruction qui m'a interrogée par rapport à mes textos, tout ça. Et puis au mois d'avril, fin avril, début mai, j'ai reçu un recommandé du tribunal me disant en fait qu'il poursuivait donc pour homicide involontaire et non-assistance à personne en péril. Alors je ne sais pas si dans la loi il y a vraiment une distinction entre personne en péril ou personne en danger. Parce que pour moi, péril, c'est un degré au-dessus.
C'est un degré au-dessus que le danger. Ouais.
Bah, le péril est imminent, ça craint pas longtemps. Quoi.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Donc là, j'attends. J'ai eu la personne qui s'occupe de l'enquête qui m'a dit qu'on ne pouvait pas espérer mieux au niveau des investigations, tout ça. Enfin, ces deux chefs d'inculpation, ils permettent quand même un champ très large pour rechercher un petit peu. Mais en tout cas, ce qui est mis en évidence, c'est clairement le médecin qui avait des a priori négatifs sur Adil et qui n'a pas voulu bouger.
L'appui de l'administration pénitentiaire. Je la lâche pas.
Alors la directrice, très charmante, se couvre. Moi, je l'ai appelée plusieurs fois. Enfin, j'ai eu plusieurs... Parce que j'ai eu la directrice après des chefs de détention. J'en ai eu plusieurs au téléphone. Où clairement, on ne ferait rien pour Adil, ça c'était clair. Mais elle, elle s'est couverte, en fait, quand Adil est décédée. Elle a dit, oui, mais moi, j'ai demandé au médecin, c'était au médecin de faire.
Non, mais les médecins, en fait, ils font chier parce qu'ils sont expérants. Quand ils mettent des mètres au mitard, tout ça, les causes, elles sont toujours valables. Donc, faut peut-être lui taper dessus à lui, quoi. Parce que la paix va se protéger. De toute façon, c'est une grosse administration derrière. Mais le médecin, là, il est en défaut à tous les niveaux, quoi.
Bah, il a même pas été en consultation. Alors moi, j'ai essayé de le prendre là sous les yeux, le rapport de l'expert où voilà, elle me dit où elle écrit en fait que l'infirmière et le médecin sont appelés en cellule parce qu'Adil a fait un malaise, qu'il est allongé sur son lit, peu coopératif, pâleur cutano, donc c'est, voilà, amaigri, conscience normale, abdomen souple. Donc voilà, c'est ce que le médecin met dans son rapport. Et l'expert dit, l'examen est succinct, monsieur Taïchil ne peut plus bouger, les soignants en doutent, mais aucun examen neurologique n'est noté. Voilà. Et donc après, elle dit, a posteriori, il aurait été préférable d'hospitaliser monsieur Taïchil dès le 9 février. Voilà. Alors après, forcément, dans le rapport, le médecin dit qu'il avait envisagé une hospitalisation le 13. Moi, je dis, c'est facile de dire ça quand il décède le 12. Hein.
C'est ça.
Ça fait des mois et des mois qu'on demande. Comme par hasard, le jour où il décède, il y avait une hospitalisation qui était prévue.
Exactement, totalement d'accord avec toi.
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons.
Et la directrice, j'ai jamais vu une directrice de détention dire « J'ai demandé, moi, au docteur qu'il le voit et que ça ne suit pas derrière. »
Alors, ben voilà. Et apparemment, c'est sa ligne de défense. Et apparemment, pour la justice, ça suffit.
Ils vont se jeter la faute, en fait.
Alors, quelque part, j'ai envie de dire, tant mieux. Ouais. Parce que le médecin aura certainement des choses à dire sur la directrice, et la directrice, pareil. Dans ces moments-là, après, c'est chacun pour soi. Hein. Donc, maintenant, j'ai envie de dire, ils se débrouillent comme ils veulent. Moi, pour moi, dans ma tête, c'est le médecin, parce que je l'ai rencontré quand je me suis rendue à la maison d'arrêt le jour du décès d'Adil, où il ne savait pas me répondre, en fait. Où je lui ai dit, mais voilà, et ça. Non, il n'y a pas de bain, t'es un médecin, apporte-moi des réponses. Seulement, ce jour-là, quand je l'ai rencontrée, elle me laissait sous-entendre qu'Adil s'était suicidé. Parce qu'il en avait marre. Mais vraiment, elle m'a dit ça avec de telles convictions que quand j'ai pu le voir à l'IML, j'ai regardé son cou, en fait. Parce que souvent, on est suicidé en prison par pendaison. J'ai regardé son cou et en fait, j'ai vu des traces rouges. Et je lui ai dit « Non, tu m'as pas fait ça. » Et en fait, quand j'ai touché, c'était du sang qui avait coulé et séché, donc... Donc c'était pas bon. Après, de toute façon, l'autopsie l'a confirmé, mais elle me répétait que c'était voilà, il s'est laissé aller, il est parti. Voilà.
Tu sais, s'il a eu la force de te donner ces dernières heures au parloir, il aurait eu la force de pas se suicider.
Mais ça m'aurait étonné de toute façon, parce que vraiment, c'était quelqu'un. Je le dis, je le redis juste. Même dans la maladie, moi, il m'a pas dit tout de suite. Je le voyais maigri, mais en prison, on n'est pas bien soigné.
Ça, c'est, je confirme.
Donc je me dis même un rhume, il peut avoir, ça peut traîner. On peut.
Une angine, pas, tout moi, simplement. Une angine ça peut mal... traîne, ça peut aboutir à des gravités.
Donc, je me disais et puis après, c'est vrai qu'il se plaignait pas de l'estomac en fait. Mais après, j'ai su qu'en fait, tout est relié. Quand on se plaint de l'épaule gauche, c'est que au niveau digestif, il y a quelque chose qui se passe.
C'est ça.
Et moi, il me demandait de lui faire des massages à chaque fois. Et puis le cœur, il se plaignait du cœur, en fait, d'être essoufflé. Le fait de descendre de son lit superposé, il était essoufflé. Donc quand on raconte ça à un médecin, même généraliste, il ne suffit pas d'un grand professeur, il dit, c'est des signes, voilà.
On dit que le bras gauche, c'est le bras du cœur. Hein.
Mais voilà. Mais ça, un médecin de la prison, voilà. On a répété à Adil, et c'est ça, il ne supportait plus, que c'était dans sa tête. Qui devait voir un psy, parce que peut-être qu'il n'avait pas fait le deuil de son frère, peut-être que, parce qu'en fait, il a été incarcéré très vite après la mort de son frère. Donc, on a remis la faute sur plein de choses, mais on n'a pas cherché. Et puis maintenant, on dit de toute façon, il refusait les soins. Alors, c'est vrai, il a refusé une prise de sang, parce qu'il leur a dit, vous n'allez pas faire que ça, que des prises de sang. La première, on me dit, il n'y a rien. Maintenant, moi, je veux voir un médecin à l'extérieur, en lui, j'ai plus confiance. Alors forcément, il bloque sur ça en disant « il a refusé des soins ».
C'est en quoi il avait raison. Et puis, en plus, je suis même pas certain que, grâce à une prise de sang, tu puisses constater qu'il y a un ulcère. Quoi.
Bah, ils auraient rien fait de plus, en fait. Ils auraient rien vu de plus que dans
les globules.
Pour la première. Bah, ouais. Voilà.
Et c'est ça qui est assez ouf. Enfin, on voit clairement là, le médecin qui a décidé que, de toute façon, ce type-là, on n'allait pas le faire aller.
On n'aurait rien fait pour
Il simule pour réussir à s'évader, ce genre de trucs. C'est ce que tu me racontais hier. C'était les excuses qu'il donnait. Et en fait, avec comme idée que, de toute façon, il ne fallait pas qu'il sorte de la prison. Sauf qu'en prison, ils n'ont aucun moyen de soigner, de détecter certaines maladies.
Mais ils n'ont aucune excuse.
De toute façon, détecter un ulcère, c'est une fibroscopie. Quoi. Y a pas...
bah, c'est ça. Et donc, ils ne peuvent absolument rien faire en détention contre ça. Putain d'excuses, hein, qui est une vraie connerie de dire on va pas le sortir et tout ça, ça permet pas de voir quoi.
Mais de toute façon, plus les globules sont élevés, plus il y a une infection élevée, et forcément, avec donc t'as pu immuniser, ton corps n'a plus de défense, donc avec une grippe, il aurait pu mourir quoi qu'il arrive. Dans tous les cas, il aurait fallu le ramener à l'hôpital. Quoi qu'il arrive.
Ouais. Alors moi, c'est ce que je dis. Hein. Donc l'avocat me dit, bon, faut pas exagérer, mais pour moi, c'est pas un homicide involontaire. Quand il y a une réelle volonté de nuire à la personne, à lui refuser les soins, c'est un homicide volontaire, je vais pousser plus loin, hein, un assassinat, parce que quand on est médecin, on connaît les conséquences d'un défaut de prise en charge. On sait que ça va mener à la mort du patient, pour moi, c'est un assassinat. Bon, ça ira pas jusque-là, je sais. Déjà, j'ai de la chance qu'on ait l'homicide involontaire, mais... Alors quand je vois le rapport d'expert qui dit on retrouve des manquements dans la prise en charge, quand on sait que les pompiers n'ont pas pu accéder directement à la cellule parce que la aire de sécurité de la porte d'entrée, elle s'est pas baissée, parce que les salles de sécurité ne s'ouvraient pas, soi-disant, maintenant je sais pas si c'est vrai, mais comme par hasard ce soir-là, il y a plein de défauts techniques, on met presque une heure à arriver entre le moment où le codétenu d'Adil appelle pour que ça va pas et le moment où les pompiers peuvent le voir, elle était déjà en arrêt respiratoire. Je me dis, la caserne des pompiers est juste à côté.
Ouais, t'as expliqué au début la position de ton compagnon par rapport à la paix. Donc, moi, je pense qu'il y a peut-être une volonté de vengeance de la paix qui est couverte par le médecin qui sert d'expert médical. Mais il faut faire sauter tous ces verrous, quoi. Ou alors, si l'expert, il va assumer jusqu'au bout et qu'il va prendre la responsabilité de la mort de ton compagnon, quoi.
Ben voilà, c'est ce que j'espère aussi, puisque voilà, les vrais responsables soient... Puis voilà, un médecin qui ne peut pas diagnostiquer un ulcère, il n'a rien à faire dans la médecine. Quoi. Donc, franchement, c'est juste que si on ne sait pas diagnostiquer un ulcère...
Ce sont quelqu'un qui crache du sang, c'est qu'il y a un souci.
Il y a quelque chose.
Incroyable. Enfin,
alors
n'importe quelle personne
et puis apparemment... Alors, le jour de son décès, j'ai eu les témoignages d'un gars, en fait, qui distribue les repas, où il a vu que ça n'allait pas. Il est allé chercher en courant un surveillant. Dans les coursives en disant ça va pas, Adil, il crache beaucoup de sang. Le surveillant est venu, donc il n'a pu que constater ce qui se passait. Il a appelé le médecin a refusé. Et apparemment, ce jour-là, ça a chauffé comme tout, tout le monde s'est énervé, mais le médecin, toujours resté sur ses positions, non, je ne viendrai pas. Si vraiment il est malade, c'est à lui de se déplacer. C'est pas à moi de me déplacer. Hein,
c'est un criminal.
Voilà.
T'avais des médecins dans les camps.
En plus, ça, c'est noté, hein. C'est noté noir sur blanc. Enfin, il le dit. Voilà, si Adil Taichi est malade, il est comme les autres, il n'a qu'à se déplacer.
T'as des putains de médecins qui ont servi de camp de concentration, c'est pareil, quoi.
C'est
les mêmes.
Je vais obtenir certains commentaires, mais c'est... Alors, le surveillant, quand le médecin lui refuse de venir en cellule, il dit, mais donnez-lui un fauteuil. Non. Laissez un détenu l'amener. Non. Voilà.
Ah, mais c'est...
Même une chaise roulante, on a refusé de lui donner. Même des béquilles. Donc je me dis, on voulait vraiment pas, on voulait le laisser. Et moi je me dis, on m'a suspendu, je suis peut-être folle, on m'a suspendu mon parloir, ne sachant pas si Adil viendrait le vendredi, pour que je ne vois pas ce qui se passait. Et en se disant, parce que la directrice me connaissait un petit peu, qu'est-ce qu'elle va faire ? Le mercredi, le dernier mercredi où je l'ai vu, j'ai été vraiment inquiète et j'ai pas su réagir. Je me dis, ce jour-là, j'aurais dû bloquer. Dire je ne sors pas, appeler les pompiers, ils auraient appelé la police pour me faire sortir, c'est sûr. Ils auraient appelé la police pour me faire sortir, mais moi, à ce moment-là, quand la police serait intervenue, j'aurais dit maintenant, derrière, il y a un homme qui est en train de mourir. C'est votre responsabilité, à vous aussi, si vous ne faites pas intervenir les services de secours.
Tu sais, tu n'as rien à te reprocher quand on est dans. Tu n'as rien à te reprocher, hein. Ne te dis pas dans la tête, j'aurais dû faire ça, j'aurais vu. T'étais dans un. Il y a ton homme qui est là, qui est, ouais. Tu sais ce qui se passe, tu es dans un état de choc en vrai, tu es dans un état de panique, il faut que tu arrives à te maîtriser, c'est très dur dans ces cas-là, tu as à avoir tout son cerveau. Et moi je dis, tu as réagi comme il fallait et lâche rien, alors, ma pote, je te jure.
Mais ils ont essayé pourtant, au départ j'étais très mal, hein, parce que je lui ai rapporté donc, de l'exprime, et donc c'est pour ça qu'ils voulaient déposer plainte contre moi. Et ils ont été jusqu'à me dire, mais vous savez, madame, c'est un médicament qui est un petit peu controversé parce que peut avoir des graves
symptômes.
De graves, voilà, ça peut entraîner justement un ulcère, ça peut avoir.
Ça veut dire qu'ils limite, ils disent que c'est de ta faute, quoi.
Ouais, ouais. Ah. Au départ, c'était ça. Alors, je suis ressortie de là, complètement effondrée, en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai voulu l'aider. Au final, c'est peut-être moi qui l'ai tué.
Pas du tout.
Clairement. Et après, qu'est-ce qui se passe ? C'est que on doute de tout, on doute de nous, en disant je l'ai fait mal. Et heureusement, le rapport d'autopsie qui dit que oui, il y a des traces de ce médicament-là dans le sang, mais que c'est vraiment à dose thérapeutique. Donc, que ça n'a pu avoir aucun effet et que l'ulcère date de bien avant,
avant
tout ça.
À partir du décès de Adil, enfin du meurtre même, ils ont la paix a eu un comportement mais de chien à te foutre la responsabilité dessus. T'as vu la directrice qui t'a foutu le dossier avec écrit en gros décédé.
Décédé. Ça, après, quand j'ai voulu récupérer ses affaires, on m'a dit, madame, vous n'étiez rien pour lui. Parce qu'on n'était pas mariés. Voilà. Vous n'étiez rien pour lui, vous n'avez pas récupéré ses essais. Alors, je peux comprendre, il y a certainement des lois qui... Voilà, ils auraient peut-être eu des problèmes si moi, j'étais pas en bon terme avec sa famille. Et voilà. Mais il y a des façons de dire les choses. On ne dit pas, vous n'étiez rien pour lui.
Quand t'as écrit pour ton parloir au juge... On t'a demandé une lettre. Dans ta lettre, tu as dit que tu étais sa compagne.
J'ai dit que j'étais sa compagne.
Donc
j'ai dû
fournir
des preuves de vie commune. Par contre, ça, on m'a pas accordé tout de suite. J'ai dû, voilà.
Si tu n'es pas mariée, c'est ton concubin. Donc, tu as un lien parenté. C'est super pas crédible comme réponse. C'est vrai, encore une fois.
Pour faire mal. Alors d'aujourd'hui, on n'a toujours pas récupéré ses effets personnels.
T'es sérieuse ?
Eh ouais. Parce que donc moi, je veux récupérer ses affaires. Enfin, 2-3 jours après, sa sœur et moi, on va à la maison d'arrêt en disant, ben voilà, on veut récupérer les affaires d'Adil. Donc, bon, la sœur d'Adil, c'est gros caractère, elle se laisse vraiment pas faire. Et puis, voilà, elle venait de perdre son frère. Deux frères, voilà, quelques mois d'intervalle, deux frères. Et Adil, c'était vraiment, comme elle dit, c'était ses yeux, c'était ses bras, c'était tout pour elle, en fait. Donc là, elle perd Adil, elle perd tout. Donc, elle a déjà un comportement nerveux. Là, elle s'énerve encore plus. Elle se retrouve face à la directrice. Donc, les mots fusent. J'essaie de tempérer un peu parce que je lui dis, écoute, t'auras rien avec eux. Déjà, en étant gentille, t'as rien. Donc, en criant, on laisse tomber. C'est elle qui a raison. Enfin, elle a la loi pour elle. Elle fera rien. Elle nous dit que la juge d'instruction a demandé la mise sous scellé. Donc, ce sera pas pour le moment. On patiente jusqu'au jour où j'ai rendez-vous avec la juge d'instruction qui m'annonce qu'elle a jamais demandé la mise sous scellé des effets personnels d'Adil. Elle vérifie. Elle me dit, non, rien du tout. Donc là, je rappelle la directrice et je lui dis, écoutez, j'ai eu la juge d'instruction qui m'indique que non. Donc là, on me dit, vous n'étiez rien pour lui, vous n'avez pas, voilà. Elle me dit, il faut la maman, puisque quand vous n'étiez pas mariée, c'est la maman. Ok, on pose une journée. Elle me dit, ok, on donne rendez-vous tel jour, telle heure avec la maman. Je prends la journée. Puis on m'appelle juste avant le rendez-vous en me disant, mais oui, mais la maman, elle ne parle pas bien français, donc il faut une interprète. Donc on remet le rendez-vous à plus tard. Ok, je suis d'accord, pas de problème, il faut une interprète. Parce que, voilà, il fallait une interprète de peur que la mère ne comprenne pas et que je vole en fait l'héritage d'Adil, hein, croire qu'il y avait des millions en cellules et que. Voilà. Je dis, ok, on va faire comme ça. Voyant que je continue de marcher dans son truc, que je dis, non, c'est pas possible. Là, on me dit, oui, mais il faut un certificat d'hérédité. Certificat d'hérédité qu'il faut qu'il soit signé par tous les membres de la famille. Donc les frères et sœurs, en disant qu'ils sont bien au courant que, voilà, qu'il y a ça à récupérer. Et comme il y a des petites discordes dans la famille, il manque une signature.
Alors qu'il y a un livret familial, quoi.
Il y a un livret de famille, ouais. Mais il faut qu'on prouve que chaque membre, enfin chaque frère et sœur, est au courant du décès et de l'héritage, entre guillemets, qui sera rendu. Et comme il manque une signature, ça bloque.
Non, mais ils sont vraiment honteux sur toute
C'est ce que je dis. Arrive un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, parce que l'héritage d'Adil, c'est quoi ? Comme je disais hier, c'est ça signifie le bien le plus précieux. Moi, j'ai demandé mes lettres. L'avocat a écrit à la juge d'instruction qui a écrit à la directrice en demandant à ce que nos échanges soient remis. Elle m'a dit, Ah mais maintenant c'est trop tard, on a rangé tous ces papiers.
Mais tu les as rangés à la fouille et puis tu me les donnes les papiers, copine.
Bah non, maintenant tout y est, voilà, tout y est mélangé dans les cartons.
Bah ouais, mais c'est pas ton problème. Le juge d'instruction a ordonné que vous me donniez mes papiers. Tu vas chercher, ma grande.
Ça, j'ai encore la copie de la lettre où la juge d'instruction demande voilà,
que
l'échange épistolaire.
Mais lâche pas, elle est au-dessus d'eux. Hein.
J'écris. Alors maintenant, on me prend plus au téléphone. Hein. On prend plus au téléphone.
Et ton avocat, il a pas écrit
que d'un. Ah si, lui aussi.
Et bah, porte plainte. Continue, lâche pas. Tu portes plainte contre eux en disant non-respect de je sais pas comment ça peut s'appeler ça, mais. Mais déjà.
C'est une ordonnance de juge.
C'est une ordonnance de juge, c'est la loi, mais c'est une tarée.
On voit qu'il n'y avait pas de mise, mais il y avait même pas de mise sous scellé, elle nous a dit ça. Et alors pourquoi? Moi je me demande pourquoi, parce que d'après les témoignages qu'on a, ce jour-là, avant que les pompiers tout ça arrive, ils ont fait le ménage dans la cellule d'Adil.
Ouais, bah, c'était pour ça. Hein.
Qu'est-ce qu'ils ont pris? Je sais pas. Moi je sais qu'Adil avait un carnet qui tenait quotidiennement avec ce qui se passe à l'intérieur, les nouvelles qu'il avait eues de l'extérieur. C'est une sorte de journal intime. Je ne sais pas s'il existe encore.
Bah déjà, s'ils lui ont mis des coups de pied, ils lui ont pris son pull déjà, dans un premier temps.
Bah oui, parce qu'il y a des traces aussi.
Bah, tu le sais, ça.
Pareil, ses vêtements. Alors ça, et ça aussi, parce que je lui ai dit « Ok », parce que et ça lui a fait peur aussi, je pense, à la directrice, parce que je lui ai dit « Ok, d'accord pour l'interprète. Ok, d'accord pour le certificat d'hérédité, mais je vais faire intervenir un huissier, parce que c'est moi qui ai ramené son linge à Adil. Je notais ce que je lui ramenais, donc je sais exactement ce qu'il avait. Je lui ai dit, maintenant vous savez qu'on s'est changé des textos, donc je sais ce qu'il avait exactement dans sa cellule, à la canette de coca près. Donc je lui ai dit, on fera constater par un huissier s'il manque des choses. Alors là, il s'est mis à l'aiguille en me disant, oui, mais, j'ai dit, mais si, on a le droit, nous aussi, de faire constater dans quel état nous rend les affaires et...
Quand tu es prisonnier.
Si jouer comme ça, on va jouer comme ça, il n'y a pas de souci. Hein.
Quand tu es prisonnier, que tu arrives au quartier des arrivants, ils te donnent un papier et ils te font signer tout ce que tu as à ta fouille. Ils ont le double.
Ouais, mais voilà. Comme il avait été transféré et après qu'il est revenu, alors ça, okay. C'est pareil. Hein. C'est, quand il est revenu de la maison d'arrêt de Lorient, il n'avait plus de plaque chauffante, il n'avait plus le droit. Enfin, voilà. On lui a dit ah, un bâtard. Voilà les termes, un bâtard de revenu. Quand il y a un de ses potes, quand il est décédé, il était au mitard. Donc il a entendu, parce que là, ça a fait un peu de bruit. Il dit, mais c'est vrai, Adil est mort. Ce rien lui a dit, non, c'est pas vrai, il est parti à l'hôpital, il est pas mort. T'inquiète pas. Après, l'autre, il retourne en promenade avec les autres, on lui dit. Donc lui, en revenant, il dit, vous foutez de ma gueule, Adil est mort. Il a dit, ouais, mais toi, c'est pas trop malin, parce que t'as vu ce qui arrive quand on fait trop de malin ici.
Et je trouve aussi que cette histoire, elle montre bien aussi toute la solidarité qui peut y avoir à l'intérieur des tôles, soit entre les prisonniers, soit toi aussi avec les proches, qui ont toujours été là en disant, bah vas-y, les lettres, les deux, trois passages qu'on a lus des lettres qu'on t'a envoyées, et aussi voilà, tous les proches et tout ça qui t'ont dit, on est prêt à soutenir, on est prêt à venir à ton procès pour raconter ce qui s'est passé.
Et ces personnes-là ont été contactées par la police et ces personnes-là ont témoigné, vraiment.
Ouais, ouais.
Alors il y a eu des représailles, hein. Il y en a un, il devait être transféré pour son bien, pour se rapprocher de la famille. Le transfert a été annulé. Hein.
Ouais.
Le transfert a été annulé. Voilà. Mais il assume. Et il l'a dit, vous pouvez me faire ce que vous voulez, j'irai jusqu'au bout pour mon pote. Il sait que ça vient de là. Notre avocat a écrit à la juge d'instruction pour qu'il soit réentendu et qu'il fasse, qu'il dise les pressions qu'il subit depuis son témoignage. Et bon, il n'y a rien qui a changé non plus. Il a témoigné en disant, lui non plus n'avait plus de mandat, sa sœur s'est fait suspendre son parloir. Le jour où, un mois après le décès d'Adil, on a fait un rassemblement devant la maison d'arrêt de Sequedin, j'avais fait floquer des t-shirts où il était inscrit « Je suis Adil ». Et il y a une maman, donc une dame d'une soixantaine d'années, qui me dit « Je veux un t-shirt et je veux rentrer à l'intérieur de la maison d'arrêt, parce que ce qu'on a fait à Adil, c'est inadmissible ». Et je lui ai laissé. On lui a dit « Madame, si vous rentrez avec ce t-shirt-là, plus de parloir, c'est terminé ». Elle a dit « Mais pourquoi, quand c'était « Je suis Charlie », il n'y a pas eu de souci ». Pourquoi là, je suis Adil ? Elle dit non, parce que ça va raviver un petit peu toute la colère qu'il y avait chez les détenus. Et donc vous choisissez soit c'est le t-shirt, mais vous rentrez pas, soit vous rentrez, mais sans le t-shirt. Donc il fallait plus en parler, il fallait plus. Voilà, c'était. Ce jour-là, j'ai déposé des roses, en fait. J'avais mis une photo d'Adil et j'ai déposé des roses. J'ai été raccompagner sa maman chez elle, qui habite à 5 km. Je suis revenue, les roses, elles étaient à la poubelle.
On va faire des. Excuse-moi, faut dire une connerie. On va faire des photos avec Adil, puis on mettra Je suis Charlie en dessous, comme ça.
Ouais, non, mais voilà. Ouais, à la limite, là, ça serait passé, peut-être.
Ça passe crème.
Non, mais je suis désolé, mais ils sont tellement cyniques et pervers que...
C'est méchant, parce que j'avais mis des roses. Enfin, on me les a mis à la poubelle. On m'a même pas dit, écoutez, non, vous mettez pas ça, vous avez pas le droit, vous mettez pas ça là, vous les reprenez en partant. Non, je suis revenue, elles étaient dans la poubelle. Voilà tout le respect et l'humanité que ces gens-là ont. Moi, ce sont écœurants pour moi, ces gens-là. Et alors, ce qui est... je suis plus trop la bienvenue là-bas à Stockenham parce que j'ai eu la chance de revoir en civil, quand il sortait de son poste, le surveillant qui m'a dit qu'Adil allait très bien. Donc, je l'ai interpellé, je lui ai dit, alors maintenant, on fait quoi? Il me dit, je comprends pas. J'ai dit, Adil, il va bien. J'ai dit, aujourd'hui, il est mort. Alors là, il est devenu blanc. Il m'a dit, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et comme je lui ai dit, bah, t'inquiète pas, moi aussi, je ferai ce que j'ai à faire. Là, bah, moi, c'est des menaces tout de suite. C'est des menaces de mort, des menaces.
Voilà. Mais ouais, mais en fait, tu vois, dans le fond, en fait, quand il dit, il fait ce qu'il a à faire, ce mec-là, c'est une fonction, point barre. Sa fonction, on la connaît, on va pas la qualifier parce que sinon, on aura des problèmes. Mmh. Mais les animaux, ils sont plus humains que ces gens-là. Voilà. C'est des fonctions, ils sont déconnectés tout.
Mais à côté de ça, il y a des surveillants qui ont témoigné. Moi, j'ai eu une surveillante quand elle a appris, quand on a pu se rencontrer, en larmes. Elle était vraiment dégoûtée parce qu'elle m'a dit, moi aussi, j'ai dit qu'il fallait soigner Adil parce que je le connaissais, parce que j'ai vu que ça n'allait pas. Vraiment en pleurs et touchée du décès d'Adil. Parce qu'en fait, elle n'était pas en service quand ça s'est passé. Elle a lu l'article dans le journal et elle me dit, quand je suis arrivée, qu'on m'a dit que c'était Adil, bon, elle n'y a pas cru parce qu'elle a dit non, pas lui. Mais en fin de compte, elle a trouvé ça normal parce que son état se dégradait, qu'elle-même avait averti plusieurs fois la direction. Et donc, j'ai la chance aussi qu'il y ait certains surveillants qui témoignent dans ce sens-là, en fait. J'ai aussi je sais pas comment, la personne qui distribue là dans les repas et tout ça, elle aussi a témoigné. Parce qu'Adil lui avait donné mon numéro en fait ce jour-là, quand il a vu qu'Adil saignait, là, qui vomissait du sang. Adil lui a dit, appelle ma femme, elle va me sortir de là. Bon, il n'a pas pu avoir accès au portable tout de suite, il s'en veut à l'heure d'aujourd'hui. Mais je me dis, Adil, à quelques heures de son décès, parce que ça c'était vers midi, il est décédé à 23h, bah, il croyait encore en moi et au pouvoir qu'on avait avec l'avocat de le faire sortir.
C'est ça qui est chouette, c'est que tu perpétues la lutte que Adil il a fait à l'intérieur pour réussir à être soigné. Et je trouve que c'est exemplaire tout ce que tu fais, que ce soit par le rassemblement devant la tôle, tout ce que tu as fait d'aller. Là, tu l'as pas dit, mais tu es allé chercher des détenus, des anciens camarades d'Adil jusqu'en Angleterre pour qu'il y ait des témoignages et tout. Et franchement, tu t'es battu comme une lionne, c'est incroyable. Et pour une fois qu'il n'y a pas eu. Seulement, que ça soit classé sans suite, t'as réussi à faire un travail mais incroyable. Et franchement, moi, après le coup de téléphone qu'on a eu hier où tu me racontais toute l'histoire, j'étais vachement touché et vachement impressionné par tout le taf que t'as mis en place. Et puis, on espère que ça va payer, quoi.
J'espère. Mais moi, c'est ce que je dis. La dernière fois où j'ai vu Adil à la morgue, je lui ai fait un bisou et je lui ai dit « T'inquiète pas, mon gros, j'irai jusqu'au bout, je te le promets. » Et entre nous, les promesses, c'était quand on se promettait quelque chose, on fait tout pour y arriver. Et je me dis, je lui ai fait cette promesse. Alors, je ne sais pas s'il m'a entendu, je sais pas ce qu'il y a après la mort. Après, je suis pas folle, mais c'est comme si j'avais un petit sourire, en fait. Il avait toujours un petit sourire au coin des lèvres. Et ce jour-là, je l'ai certainement imaginé, mais j'ai vu un petit sourire.
T'inquiète, il était là, le sourire.
Je lui ai dit, je te lâcherai pas. Et quand on me dit, t'es jeune, il faut que tu penses à toi, il faut que tu revives. Bien sûr, la vie, elle continue autrement, mais bien sûr, elle continue. De toute façon, je sais que s'il était là, il me verrait pleurer, il serait pas content. Mais j'ai fait une promesse, et même si ça met 10 ans, j'irai jusqu'au bout, et je lui dirai, mon gros, tu vois, j'y suis allée, et j'espère que je pourrai lui dire, j'espère que je pourrai aller sur sa tombe en lui disant, j'ai réussi, voilà. Repose en paix maintenant, et j'ai réussi. C'est tout ce que je veux, c'est ce que je dis. On parle d'indemnité, j'en veux même pas, parce que ça sera vivre avec l'argent de son décès, j'en veux pas. Moi, je veux qu'on lui rende justice et qu'on dise, telle personne a été coupable de ne pas l'avoir soignée. C'est tout ce qui m'intéresse.
Ces gens-là, après, arrête d'exercer une nous.
Voilà. Et puis que ce pouvoir, ou comme on dit, en fait, ils sont juges et partis, où on ne sait rien de ce qui se passe, en fait. Quand les portes, quand on sort du parloir, on ne sait plus rien. Si le détenu n'en parle pas, on ne sait pas ce qui se passe. C'est ça. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ne sont jamais condamnés. On leur trouve toujours des excuses. Parce que depuis, je m'intéresse un peu. C'est vrai, il faut qu'il nous arrive un drame pour qu'on s'intéresse un peu plus à ce qui se passe, puisque moi, Adil était incarcéré. Au départ, ça allait très bien. C'était dur de ne pas le voir, c'était dur de rentrer à la maison qu'il ne soit plus là. Mais c'est tout, je me disais, il va finir par sortir. Il n'avait pas pris 15 ans. Il sortirait, on retrouverait notre vie. Maintenant, quand je vois ce qui se passe, je m'intéresse un peu plus à tous ces problèmes. Et même avec mes parents, on me dit, mais c'est pas possible.
Alors quand j'entends maintenant, mais en prison, ils sont bien, c'est le Club Med, ils ont Canal Plus, ils ont des salles de sport.
Je les invite à passer un petit séjour là-bas, ces gens-là. Hein.
Mais déjà, alors j'ai eu, moi, quand c'est arrivé, on m'a contacté via Facebook, parce que l'OIT avait mis un article. Alors j'ai reçu des messages de soutien, donc jusqu'à Tahiti, j'ai reçu des messages des gens de Tahiti qui ont envoyé des messages, mais j'ai reçu aussi des messages d'insultes, en me disant que c'était honteux de me plaindre, que de toute façon, s'il était en prison, il l'avait cherché.
Écoute, Anne comme a dit Sylvia tout à l'heure, excuse-moi, je te coupe, mais tu vois, par rapport à la responsabilité, tout ça, t'as pas apporté, tous les gens qui ont voulu doivent pas apporter. Les responsables, on les connaît. On va essayer de faire sortir le machin. Après, c'est toujours des moments de tension et de sensibilité qu'il faut ressortir. Et de l'amitié, et de l'humanité, et des conneries. Faut baser tous ces gens parce qu'ils sont trop nombreux. Écoute, nous, on est présents là. La radio, en fait, t'interviens quand tu veux. T'interviens quand tu veux. T'as le contact d'au moins une ou deux personnes de chez nous. On se rappelle. Enfin, tu nous appelles, on t'appelle, on se tient au courant. Et puis, s'il y a besoin de monter des fois là-bas pour aider à être plus nombreux, et ben, on essaiera d'être là. Donc, tu nous rappelles, puis on se tient au jus. OK?
Il n'y a pas de souci, c'est très gentil en tout cas.
Ouais, désolé, c'est juste qu'on finit dans...
Ouais, j'imagine que...
Voilà. Et voilà, mais on se tient au courant, on continue et on fait...
J'ai du nouveau un peu dans le dossier, je manque pas de...
Bah ouais, grave, de toute façon, on s'appelle à la fin et tout ça. Merci beaucoup d'avoir témoigné.
C'est moi.
Grande
merci.
Force.
Merci
et
à toi.
Gros courage à toi et bravo pour tout ce que tu as déjà fait, c'est incroyable.
Merci beaucoup. Et ben, bonne continuation merci. À vous, franchement, c'est... Et puis à bientôt, j'espère.
À bientôt.
À très bientôt.
Au revoir.
Merci. Au revoir. Yeah. It's only there for the taking, son. Take it on, baby. Matter of fact, let me get some of that beer, son. Drunk all that shit. 41st Sock Convention, Queens Connection. The bridge we rapping. Any party that we stepping, get the handy up. The SOP immediately. Extra bent, riding out, sun is evident. We stash cream. Mansions fulfill my dream, ice rings gleam. Spread love throughout the whole team. Dominate the game with several combinations. No conversation, bring on your good confrontation. You hesitating, ass betting. That's bad business. For the game, nigga, get out the business. You waste space. Substitute, here's a replace. We face, smack the smile off your fucking face, change the taste, send your home back to vacate, get your shit together, plus your mind straight. Yo, my empire strikes with the strength of poisonous snakes, my entire unit loaded up with snake niggas at high stakes, we pull off at high stakes, great escapes, span shift team downstate, dreams of growing old with my son to live great, little man, I plan to enhance your mind state, the rebirth of nigga who lived the ill life, the one before me was of one even more trife, my understanding. I raise you with precise planning. It puts you on to the whole game on this planet. But I gotta survive in order to follow through plans to live lotto. Me and my little kiddo. Any man trying to stop us, he get wet though. You couldn't withstand a snake bite, there is no antidote. You put your hands too close and try to approach. I won't snap at you, I'm going for throats. And when you feel my bite, you sing high notes. I peeped you from deep and then you got cut close. My formula, I live life, do or die. Staring to the eyes of a deep wise guy, prodigy, turning niggas to proteges, my protege, I advise your ass to make way, for fully auto gun spray, your small prey, I'll easily bait and trap game, this man is half mad, scientist half sane, create a rhyme labyrinth like poisonous cannabis, here take a token of this, deadly rare vocalist, overpower your tiny noise like focus, like sunlight through a magnifying glass, I'll focus and burn a hole straight through your brain and leave you open. And let the venom soak in. You start sweating and going through convulsions from dope shit I rip. Leaving niggas stuck, I let stick. Trapped up in the web of a nigga that's sick. I wrap you up with a cocoon, get caught up in the mist. A dangerous, risky business, fuck her with this. Contender number one, I put you on top of the list. You're the best challenger so far, I'll give you this for peep this. Fatal shot to solar plex, man down. Now who dares to go next? Like General Monk orders to chop next. I send a message to my whole clique, the bomb shit. Atomic, no time for calm shit. We hyperactive when it's time to Vietnam pit. Your whole alliance gets single-handedly palmed it. Take heed to the apostles warning.
Donc bah voilà, on vient d'entendre un long enregistrement donc qui date d'une émission du 15 septembre 2017 qui est disponible sur le site. Donc où Anne, la compagne d'Adil Teichi, bah voilà, elle est revenue longuement avec nous quoi sur comment ça s'est passé. Donc pour rappel, donc ce 8 décembre dernier, là, c'était la dernière partie du procès du médecin qui est clairement responsable de la mort d'Adil, ainsi que tous les matons, comme on le disait au début de l'émission et pendant toute l'émission. Qui sont voilà bah, responsables de la mort d'Adil, mais bon, il y a que lui qui était poursuivi. Je rappelle les réquisitions, c'est 12 mois avec sursis, pas d'interdiction d'exercer a priori prononcée, et a priori l'ordre des médecins ne s'est pas non plus saisi pour une radiation ou quoi que ce soit quoi. Donc voilà, on va terminer l'émission là-dessus. Donc pour rappel, les deux prochaines émissions, c'est des émissions enregistrées. Je rappelle le numéro de téléphone, c'est le 07 53 10 31 95. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, L'Envolée-FPP. Je rappelle qu'il y a le journal qui vient de sortir, enfin qui va sortir, et que on fera sûrement une émission de présentation plutôt à la rentrée pour raconter un peu ce qu'il y a dedans. Mais qu'en attendant, le journal reste gratuit pour tous les prisonniers et prisonnières. Pour finir l'émission, on va surtout donner plein de force à toutes les personnes qui sont à l'intérieur. On sait que c'est la galère avec les colis, on en a parlé ces dernières semaines. On sait que surtout les fins d'année, c'est des moments qui sont particulièrement durs pour tout le monde, encore plus quand t'es en tôle, quelle que soit la tôle. Du coup, entre le froid, le fait que ce soit les fêtes, que tu sois loin de tes proches, que tout ça. On souhaite la meilleure fin d'année possible. À tout le monde et puis vu qu'on se revoit en janvier on souhaite aussi la meilleure année possible en 2022 quoi, même si on sait que une année en tôle ça reste une année en tôle moi j'en profite pour passer plein de force à toutes les personnes à Libreflow, à Fabrice, à l'infâme, à Nadia, Youssef, tout le monde un peu avec qui on parle souvent, Mika, etc. Rediffusion mercredi matin 8h30 et en attendant, il n'y a pas d'arrangement.
Rest in peace, Lord Evermas, Kusta Nigga, Mac Miller, Juice WRLD, XXXTentacion, Jimmy Wapo, ASAP Yams, John Singleton, Nipsey Hussle, Lil Peep, Kobe Bryant. I miss y'all, man. I was just sitting there pouring this perp up, thinking about all this shit. I was thinking, I don't know if I'm reminiscing or what to call this shit. I was thinking, when you get on it, feel like niggas wanna see you fall and slip. Wanna see it. Man, I wish my nigga was here with me to take a sip. Hey. Pour some drink for the game. 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 Pour some drink. Ask me to pour me up. Pour some drink for the game. I got a cup. I got a cup. I got a cup for the pain. Double my cup. Double my cup. Double my cup for the pain. Double it. I got a cup. I got a cup. I got a cup for the game. Double my cup for the pain. Double my cup for the game. RP my niggas that's gone. Free all my niggas that's locked up. Ain't really gotta say no names. Y'all niggas tryna get me caught up. Niggas be running they mouth. Then all them charges get brought up. We out here getting to a sack. They out here getting they clout up. Man, fuck all these niggas. They don't even care nothing about us. I do it for my niggas that ain't here no more. Fuck all them niggas that doubt us. Sit back, count this count up. Shit on niggas, mount up. Fuck this smoke, this pound up. I don't even want niggas round us. I lost too many niggas. Lost a couple more niggas that was round us. We was out here playing with the white. We was out here chopping that brown up. Run through a sack. Me and my niggas was out here fucking the town up. Gotta go get that money counter when it's time to count up. Big racks on the counter. Watch them niggas frown up. I can't let them nail me, so I keep the hammer. Extended clip bananas. Surround the trap with cameras. My drink expensive, drop 600, all in Sprites and Fanta's. Pour some drink for the game. 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 Pour some drink. Ask me to pour me up. Pour some drink for the game. I got a cup. I got a cup. I got a cup for the pain. Double my cup. Double my cup. Double my cup for the pain. Double it. I got a cup. I got a cup. I got a cup for the game. Double my cup for the pain. Double my cup for the game.
Ain't no lick, but she sure lick him. Ain't no Vic, my dogs gon' sick. My nigga gon' blitz, linebacker position. My niggas in prison, sure do miss. When I pour off for you, I pour out a little. I roll up a few to get through obstacles. I then passed out in the lobby of the hospital. Get money, fuck everybody like a prostitute. What I'ma do is what I do best. Accomplish the impossible. If not, then I'm hostile towards you. And you ever, I'm opposite to my dad.
a parent. Yeah. Hope to see you when I vanish. My nigga Yams told me Spanish. Brother ain't teach me manners, bitch. Yeah. Let us buy our heads before I go to bed. Forever. Meet the man upstairs.
Pour some drink for the game.